toutes et à tous, c'est le pasteur Thibaut de la Ruelle qui vous parle dans cette émission de l'Instant Théouvie. Donc cette émission qui consiste à faire la promotion du service Théouvie, service encore une fois libre et gratuit sur internet à l'adresse théouvie.org, qui a pour mission, pour vocation au fond de rendre accessible au public, au grand public, qu'il soit croyant ou non croyant, qu'il soit de telle ou telle confession ou sans confession, de rendre accessibles les textes de manière à les comprendre et puis à se faire soi-même sa propre opinion, sa propre idée. Voilà, Théouvie n'est pas un site qui dit ce qu'il faut comprendre ni croire, mais qui donne des outils pour que tout un chacun puisse aller regarder dans les textes proposés, et puis avec les informations qui sont proposées pour chaque texte, eh bien justement puisse avoir accès à ces récits et se fasse sa propre idée. Alors pour aujourd'hui, j'avais pour idée de faire une petite réflexion que j'avais envie de mettre sous un signe un peu humoristique. Vous connaissez peut-être cette phrase de Jésus, une phrase qu'on trouve dans l'évangile de Luc et aussi dans l'évangile de Matthieu, qui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et du coup, j'avais envie, moi, de dire, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où crécher. Alors, si évidemment j'utilise ce terme, c'est parce que nous entrons dans la période de Noël avec voilà, avec ces rituels, avec ces décorations, ces illuminations, etc., etc. Et puis, évidemment, avec ces petites polémiques très finalement assez minables parce que très répétitives et sans vraiment d'argumentation ni d'éléments nouveaux qui pourraient voilà qui pourraient comme une série télévisée faire rebondir un petit peu les épisodes. Non, on a toujours ce spectacle très affligeant entre les anti-crèches dans les municipalités et les pro-crèches dans les municipalités et puis les tribunaux qui doivent trancher la question, qui doivent, à partir de jurisprudence, se décider sur le maintien, la condamnation, mesurer si on est dans le cadre acceptable ou dans un cadre, voilà, qui trahit les principes de neutralité de la laïcité. Voilà. Donc, je pense que il n'échappe à personne que ce genre de problématique, encore une fois, revient chaque année dans nos actualités. Alors, bien évidemment, je ne vais pas reprendre cette question-là parce que finalement, c'est pas une question rationnelle, c'est pas une question théologique. D'ailleurs, c'est une question très identitaire des deux côtés. C'est pour ça aussi quelque part, elle est assez pauvre et assez minable parce que finalement, les deux parties se battent pour la même chose, l'un pour le rejeter et l'autre pour le promouvoir. Mais c'est finalement la même chose et cette chose qui suscite le débat, la discussion, la dispute et l'agressivité, finalement, bah, c'est quelque chose qui a peut-être pas vraiment grand-chose à voir avec ce que le texte biblique donne à comprendre, voilà, de ce qui aurait pu être l'inspiration de ces crèches, à savoir justement les textes de la naissance de Jésus. Alors donc on va plutôt s'intéresser voilà à ce que les textes nous disent et puis voilà on va rester aussi fidèle à l'esprit Théouvie sans forcément apporter de conclusion définitive mais peut-être voilà souligner un certain nombre d'éléments de comparaison de connaissances qui permettent de se faire un peu une idée de justement de ce récit qui se traduit encore une fois malheureusement dans ces conflits autour de la crèche. Alors d'abord, il faut toujours rappeler des choses qui sont importantes dans le Nouveau Testament, à savoir que tout d'abord, les premiers chrétiens n'ont pas eu pour préoccupation principale de raconter la vie de Jésus. Hein, ça, c'est quelque chose d'assez important. Les textes les plus anciens du Nouveau Testament ne sont pas les textes qui racontent la vie de Jésus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque quelque part, bah, on pourrait dire effectivement, le Nouveau Testament commence avec voilà avec la proclamation du Jésus reconnu comme Christ, et donc quelque part, bah, voilà, c'est sa naissance, son ministère, sa vie, sa mort et sa résurrection qui effectivement suscite la prédication chrétienne et donc voilà met en route les choses un peu comme on pourrait dire bah voilà dans l'Ancien Testament c'est la Genèse qui est le premier récit puisqu'elle raconte le commencement. Bon. Et bien entendu, on sait que raconter un commencement, c'est pas ce qu'on fait au commencement, mais c'est ce qu'on fait plutôt quand on a déjà une certaine réflexion, une certaine maturité, et que justement, eh bien, à partir de la réflexion, de la maturité, eh bien, on se met à raconter une origine. Et donc, encore une fois, l'origine, c'est pas vraiment le commencement des choses, c'est plutôt un regard qui est porté à partir d'un événement qui a été fondateur et à partir de cette réflexion de ce qu'il a mis en route, eh bien, on essaye de relire une histoire et donc de la relire à partir d'une origine. Voilà. Et donc, il faut rappeler que dans le Nouveau Testament, finalement, tout ce qui est premier, c'est la déclaration de la résurrection du Christ et des effets que ça produit, notamment sur la loi. Hein. Donc là, je fais bien sûr allusion aux épîtres de l'apôtre Paul. Puisque finalement ce sont les textes les plus anciens du Nouveau Testament, donc oui du Nouveau Testament, donc c'est bien effectivement à partir de la proclamation que Jésus est le Christ, que Jésus crucifié, ressuscité est le Christ, que là c'est la bonne nouvelle de sa résurrection qui constitue l'événement nouveau qui encore une fois a des conséquences notamment sur la loi, sur l'élection, sur la justification, voilà, toutes ces grandes thématiques, eh bien ce sont les premières historiquement, ce sont les premières choses qui sont écrites dans le Nouveau Testament. Voilà. Et c'est seulement plus tard, un peu plus tard, que effectivement la vie de Jésus va être racontée. Voilà. Il faut attendre que quelque part la première génération des chrétiens qui prêchaient l'évangile, comme Paul, voilà, qui annonçait le Christ ressuscité, eh bien il faut attendre que cette première génération de chrétiens disparaisse pour que finalement il soit important, fondamental de raconter l'histoire de celui qui a porté cet événement, c'est donc l'histoire du Christ, voilà, l'histoire de Jésus de Nazareth qui sera reconnu comme le Christ. Voilà. Et c'est pour ça que les évangiles finalement sont écrits dans un second temps. Que dans un premier temps, il n'est pas nécessaire d'avoir ces récits-là parce que finalement, sans doute que ça circule oralement et puis on est encore proche de sa réalité historique pour pouvoir se contenter de la prédication de l'événement fondateur qui, encore une fois, est la mort et la résurrection. Voilà. Et donc, c'est seulement dans un second temps, quand effectivement les premiers témoins disparaissent, qu'il est nécessaire du coup de coucher par écrit des récits qui racontent voilà cette vie de Jésus reconnu comme le Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, là encore, c'est les premiers de ces quatre récits, le premier des quatre évangiles, on le sait très bien, c'est l'évangile de Marc, et finalement, il commence le baptême de Jésus, il commence sur le ministère de Jésus. Il commence pas par l'enfance de Jésus, par la naissance de Jésus. Donc là aussi, c'est intéressant puisque finalement, voilà. Donc quand on va commencer à avoir besoin de raconter la vie de Jésus, on va pas aller très loin dans une origine, dans la naissance. On va partir de l'origine du ministère, voilà, et donc du baptême de Jésus, et puis du coup en embrayant sur sa prédication. Et puis, bien entendu, encore une fois, sur sa mort et sa résurrection. Voilà. Il va falloir attendre un peu après les évangélistes Luc et Matthieu qui vont reprendre en grande partie le récit de Marc et qui vont quelque part rajouter à ce récit, eh bien justement des récits de l'enfance, voilà, des récits de l'enfance, des récits de la naissance, des récits qui vont quelque part faire le lien entre la personne de Jésus et finalement et son histoire, quoi. D'où il est, d'où il est sorti quelque part, d'où il vient, voilà. Et donc ces récits, encore une fois, les récits de la naissance, de la nativité, en Matthieu et Luc, eh bien, au fond, ils ont cette fonction-là. Et quelque part, on peut du coup comprendre pourquoi finalement il y a ces polémiques autour de la crèche, parce que bien entendu, ça touche quand même à la question de l'identité. Ça touche à la question de notre identité, qu'on appelle parfois les racines. Hein, donc, une chrétienne de l'Europe, de la France, de l'Occident, etc., etc. Bien, mais c'est évidemment un peu enfin, un peu, c'est évidemment ce débat qui est en arrière-fond souvent de la question de la crèche, quoi. Voilà. Donc là encore, on va pas s'occuper de ça ici, c'est pas le sujet, mais on peut d'autant plus comprendre que effectivement, la question de l'origine, de l'enracinement, eh bien, de ce point de vue-là, cruciale, puisqu'elle dit quelque chose d'où on vient. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec Matthieu et Luc, eh bien, finalement, ils vont être très libres dans le récit de dans leur récit, puisque finalement, si on prend les deux récits, bah, ils se recoupent pas tant que ça, hein. Alors, bien sûr, quand on prend une crèche, on peut mettre d'un côté les mages, voilà, et puis de l'autre côté les bergers. Donc, comme ça, tout le monde est content parce que finalement, on peut faire un truc qui soit un peu homogène, qui soit un peu synthétique. Mais quand on prend l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, en fait, le récit n'est pas du tout construit de la même façon. Et quelque part, c'est pas que ce soit contradictoire, mais c'est qu'on a deux scènes qui sont sensiblement différentes, puisque chez Matthieu, encore une fois, on a disons, ce récit des mages étrangers, des savants qui voilà, à partir de l'étoile, sont conduits à Jésus. Offre des présents, les fameux présents qui sont extrêmement riches, voilà. Et puis du côté de Luc, bah, ça n'a rien à voir, puisque du côté de Luc, c'est des bergers qui sont encore une fois au bénéfice d'une révélation qui leur indique que le sauveur leur est né, quoi. Et donc voilà, on voit bien que les récits n'ont pas la même n'ont pas la même signification, n'ont pas la même vocation. Donc ça, c'est là aussi, c'est extrêmement intéressant et important de rappeler, puisque finalement voilà, il s'agit pas de quand on raconte une origine, il s'agit pas de prétendre à une sorte de vérité historique, de quelque chose qui serait voilà homogène, absolu, indiscutable. Mais finalement, Matthieu et Luc ont assez de liberté, se sentent assez de liberté évangélique pour, encore une fois, raconter des choses qui ne sont pas uniquement vues sous un angle différent, mais qui sont, encore une fois, deux choses voilà, différentes, qui ont des points communs, bien sûr, mais qui sont suffisamment différentes pour, justement, encore une fois, témoigner de cette liberté de l'évangile. Alors, si on résume un peu, hein, on connaît bien les différences fondamentales entre les deux évangélistes, hein. On sait que chez Matthieu, on va plutôt avoir l'accent est mis sur Joseph. C'est Joseph, encore une fois, qui en songe va savoir qu'il faut pas répudier Marie, que du coup, voilà, il va embarquer sa petite famille, voilà, se protéger en Égypte. Alors que Luc, lui, c'est l'accent est mis sur Marie, avec cette fameuse scène de l'Annonciation. Il y a aussi évidemment cette double naissance, puisqu'il y a, il y a la naissance de Jean-Baptiste avec la visite de Élisabeth, quoi. Voilà, donc on voit bien qu'on a, encore une fois, là aussi deux angles différents. On voit que, quelque part, voilà, chez Matthieu, on a quelque chose d'assez juif finalement, puisque il y a l'idée que Le fils sauvera son peuple de ses péchés, alors que du côté de Luc, on a quelque chose sur donc de l'ange Gabriel qui apparaît à Marie et donc voilà qui va dire les choses sensiblement différentes. L'universalité sera différente. Dans les deux cas, il y a une universalité, mais elle est pas, elle se conçoit pas de la même manière. Donc voilà, donc Matthieu met en scène les mages qui sont venus d'Orient, qui sont guidés par l'étoile. Donc on a des savants étrangers. Et donc il y a vraiment une vision d'universalité du salut qui est très présente à travers cette figure, puisque encore une fois le Messie va être reconnu par des étrangers. Alors que du côté de Luc, on va avoir plus une scène avec les bergers qui sont donc informés par les anges et qui du coup les bergers bien sûr, ça symbolise les humbles. Et on sait que chez Luc, il y a quelque chose d'important sur la question des riches, voilà, qui sont très critiqués, et au contraire des humbles. Bon, bah voilà, là on a une figure sur l'idée que c'est aux humbles d'abord que Dieu se révèle, quoi. Voilà. Chez Matthieu, les mages vont trouver la maison. Voilà, donc c'est après la naissance, il y aura donc le don de l'or, de l'encens et de la myrrhe, alors que chez Luc, on est voilà, là on est dans la scène où Jésus est couché dans la mangeoire, dans la crèche, et Luc nous explique que c'est parce qu'il n'y a pas il y a pas de place à l'hôtellerie, et donc il n'y a pas de mages, il n'y a pas de cadeaux, on est dans une situation qui est différente. Chez Matthieu, on a un récit qui est plutôt un récit assez dramatique, puisque Hérode se sent menacé par la visite des mages, hein. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, voilà, il se dit, on lui annonce un roi, donc bon, bah, lui, il se dit, bah, s'il y a un roi, c'est un concurrent, donc il faut le supprimer. Et donc ça conduit à cette fameuse, à ce fameux récit du massacre des innocents qui pousse du coup Joseph à prendre Marie et l'enfant et se fuir en Égypte de se protéger. Et c'est seulement dans un second temps, à la mort d'Hérode, que ils vont retourner s'installer à Nazareth. Voilà. Alors que chez Luc, il n'y a absolument aucun conflit de raconter avec les autorités. Et il y a une présentation de Jésus au temple, et puis du coup, il retourne tranquillement à Nazareth. Voilà. Donc on voit encore une fois hein, des préoccupations, des manières finalement de montrer l'origine qui sont bah voilà, qui sont différentes. On voit bien que effectivement chez Matthieu il y a quand même des symboliques qui renvoient à l'Ancien Testament. Hein, cette question du massacre des innocents, de la fuite en Égypte, bon, bah, évidemment ça fait des échos complets avec le récit de l'Exode de Moïse. Voilà, il y a des proximités, je dirais, de narratives qui font quelque part de Jésus un nouveau Moïse. Voilà, il y a des éléments qui rappellent ce genre de choses. Bon, on voit que Luc, c'est pas du tout son, c'est pas sa préoccupation parce qu'effectivement, lui, il a pas ce besoin de rattacher cette histoire avec l'histoire juive, l'histoire hébraïque. Voilà, donc c'est pas du tout la même manière. Et on le voit d'ailleurs bien dans les généalogies, puisque chez Matthieu, la généalogie elle est descendante, hein, elle va de Abraham à Jésus. Il y a trois séries de 14 générations et on va insister sur l'identité messianique de Jésus, fils de David. Alors que en Luc, on a une généalogie ascendante puisqu'elle va de Jésus à Adam. Donc du coup, Jésus il est décrit comme fils d'Adam, fils de Dieu. Donc on voit qu'il y a une dimension plus universelle. Voilà, puisque il est pas, enfin il est pas positionné comme fils de David, donc Messie, mais plus comme voilà justement comme fils de l'homme, fils d'Adam, fils de Dieu, et que du coup ça élargit de manière plus universelle. Alors une fois, il s'agit pas de dire que Luc est plus universel que Mathieu, puisque j'ai dit tout à l'heure que le fait que les mages reconnaissent, donc étrangers reconnaissent le Messie, il y a aussi une dimension universelle. Mais on voit que cette universalité, elle n'est pas construite tout à fait de la même manière, puisque chez Mathieu, il y a une universalité quelque part qui reprend aussi l'universalité juive de l'Ancien Testament, puisqu'on trouve une universalité importante dans l'Ancien Testament, puisque Israël finalement est conçu comme étant lumière des nations, donc elle doit révéler au monde à un moment donné son Dieu, voilà, qui du coup devient le Dieu de tous. Donc il y a bien une dimension universelle non, enfin je veux dire totale, sans la moindre ambiguïté. Donc voilà. Donc Matthieu reprend quelque chose de ça, mais Luc voilà va poser une universalité sensiblement différente puisque lui va passer plutôt par la dimension du genre humain en général. Voilà. Donc c'est encore une fois des convictions qui sont identiques, mais qui passent pas par les mêmes repères identitaires, tout simplement parce que encore une fois le milieu dans lequel évolue Luc et le milieu dans lequel évolue Matthieu n'est pas le même. Voilà. Matthieu, on sait que c'est de toute évidence une communauté de chrétiens d'origine juive. Donc pour eux, évidemment, c'est important de reprendre toute cette histoire de l'Ancien Testament, de l'identité de fils de David, etc., etc. Alors que Luc, voilà, on sait qu'il appartient beaucoup plus à une communauté païenne. Et donc là, bah, effectivement, c'est pas la même histoire, c'est pas la même préoccupation. Même si, bien sûr, on en reprend des thématiques, on reprend pas la totalité et on n'a pas besoin de faire passer les liens par les mêmes, voilà, par les mêmes coutures, quoi, si on peut dire les choses comme ça, quoi. Donc on voit bien que chez Matthieu, Jésus quelque part est une sorte de nouveau Moïse, est menacé par un roi qui ordonne le massacre. Hein, donc là on est vraiment dans l'histoire de Moïse et Pharaon, que Jésus du coup accomplit les écritures juives, hein, que l'universalité du coup elle est bel et bien suggérée par les mages qui reconnaissent le Messie. Et dans l'Ancien Testament, c'est quand même aussi des choses qui arrivent, hein, que effectivement le vrai Dieu soit reconnu par des étrangers. Donc c'est pas non plus une dimension là encore, hein, c'est pas une dimension nouvelle, c'est une dimension qui est très fidèle à quelque chose qu'on trouve régulièrement dans les Écritures. Alors que Luc, voilà, encore une fois, on l'a dit, il y a beaucoup plus le fait d'apporter de la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà, et donc il y a une, comment dire, il y a le fait de se réjouir avec les humbles, et il y a aussi la mise en avant de l'action de l'Esprit Saint, que évidemment on va retrouver beaucoup dans les actes des apôtres. Voilà. Voilà, donc comme je le disais, hein, le Fils de l'homme n'a pas où crêcher. C'est encore une fois une manière de dire que c'est quand même bien dommage que dans toutes ces discussions, mais justement, on se reproblématise pas tout ce que ces textes viennent mettre de subtil. Donc pas simplement de remplir des symboles comme ça, pleins, religieux, identitaires, pour les, encore une fois, pour se les approprier ou au contraire pour les rejeter. Mais encore une fois, les deux font la même chose finalement. Voilà, c'est bien dommage, eh bien qu'on reprenne pas les textes et puis qu'on n'en redécouvre pas le caractère subversif, parce que encore une fois, ce qui est quand même subversif là-dedans, c'est que bah, à un moment donné, ce petit pauvre, bah, c'est le Dieu, quoi. Voilà. Et ça reste quelque chose de c'est ça le vrai scandale, c'est que Dieu se tient là où on l'attend pas. Il se tient pas là où on veut mettre la main dessus pour en faire un emblème, encore une fois, de puissance, de maîtrise, d'identité, etc., etc. Encore une fois, pour se l'approprier ou pour le qualifier aux autres et le rejeter. Voilà, il se tient là où on l'attend pas. Voilà. On va laisser la crèche libre, on va pas mettre le nourrisson dedans, on va laisser donc la question ouverte et puis laisser tout à chacun réfléchir et puis mettre dans cette mangeoire et eh bien ce qui lui semble être le plus vrai pour sa vie. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes en tout cas de fin d'année, Noël en particulier. À bientôt.